Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas doctorants, donc je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Donc, je fais partie des usagers et de ceux qui ont participé à la construction de stratégies de contenu, comme l'a dit Grégory tout à l'heure. Et depuis peu, j'ai rejoint l'équipe de Cilabs, qui est une start-up qui génère des contenus automatiquement à partir de la donnée. Donc, je suis un béotien, ce qui va vous permettre peut-être d'être votre propre traducteur à certains moments. Allez, alors, le sujet, c'est, on l'a dit, parfois anxiogène. On voit sur les réseaux émerger quelques posts, quelques likes, quelques commentaires qui mettent l'intelligence artificielle en défiance, en tout cas qui opposent l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre sujet, c'est justement de se dire que il y a une alchimie possible et qu'elle n'est pas seulement possible, c'est qu'elle est déjà constituée en partie dans des entreprises qui travaillent dessus et que vous verrez que des penseurs même de l'intelligence artificielle utilisent, disons que ils n'opposent pas ces deux l'être humain pardon et les algorithmes. Donc deux révolutions, une convergence. Je vais vous faire un petit peu l'historique. Vous allez voir, là, ça va être extrêmement vulgarisé, mais vous allez comprendre pourquoi j'emprunte ce chemin. Le sujet, ça a d'abord été de travailler l'information. Donc forcément, il y a un laps de temps extrêmement long entre le développement de l'imprimerie et l'arrivée du web. Pour le coup, le sujet, c'était d'abord de mettre à disposition l'information. Dans quelle mesure cette information-là pouvait toucher le plus grand nombre possible. Et donc, du livre à sa conception, son industrialisation, jusqu'au web qui irrigue l'ensemble du monde. Pour le coup, le sujet a vraiment été traité de manière à rendre accessible l'ensemble de l'information. Donc on est passé des moines copistes à des rédactions, donc là vous allez voir que c'est pas... L'idée c'est que ce qui est simplement une évolution. Pareil sur les supports, puisqu'on est passé de l'information à la conversation avec le web 2.0, où on a lié justement, on a commencé à allier à la fois le smartphone et les outils conversationnels comme les réseaux sociaux. Là, j'invente rien pour le coup, vous le savez déjà tous très bien, mais il y a quand même un cheminement entre l'information et la conversation. Et que de plus en plus, ceux qui étaient considérés comme exclusivement producteurs de contenu, ben, en fait, on a ouvert la production de contenu en UGC à tous ceux qui possèdent un smartphone sont en capacité de générer du contenu. Et donc du coup, on a multiplié de manière très... fondamentale, les contenus sur l'ensemble des réseaux en capacité de les diffuser. Et le troisième, vous allez, je pense, en parler durant cette semaine, le système de plateforme et Web3, et notamment le principe de transposition, puisque après l'information, après la conversation, désormais, il y a l'immersion plus, qui est la transposition de vous-même au sein même d'un écosystème, et donc du coup, on change de modèle. On devient acteur de son propre contenu, on devient acteur dans une autre typologie de monde. Mais pour le coup, ça, c'est typiquement ce qui est en train de se passer, sur lequel le modèle économique et le modèle de production, notamment lié au contenu, est encore extrêmement balbutiant, mais qui va se structurer forcément à un moment donné. Et donc tout ça pour dire que finalement, dans cette... Ça, c'est une slide qui aura dû sauter, mais pour le coup, là, c'est les Galeries Lafayette qui vous proposent leur Web3 in-store, donc une immersion particulière. Mais tout ça pour dire que finalement, il y a une révolution à trois séquences. Et ça nous amène forcément, puisqu'on a travaillé sur chacun de ces trois, information, conversation et transposition, autour de, à chaque fois, des créations de contenu et de scénarisation. On a travaillé sur la scénarisation des contenus, sur comment on hiérarchise les contenus au sein de son propre support, donc d'un livre, d'un journal. On a même travaillé sur des récits de marques et donc adapté des formats de marques, comment on conçoit des marques à travers une manière de les raconter. Et à chaque fois, en fait, on s'aperçoit que de toutes ces trois séquences-là, c'est l'humain qui rend compte, finalement, et c'est l'humain qui raconte. Et ça, c'est extrêmement important parce que depuis la naissance de l'écriture, forcément, la narration et le récit est venu de l'humain. Aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'on garde l'humain qui raconte, forcément. L'humain est prescripteur de sa propre narration. Mais aujourd'hui, la technologie, et c'est là où on va en venir, la technologie se met à côté de l'humain pour pouvoir rendre compte et pour pouvoir raconter. Et donc, on passe finalement à une deuxième révolution, qui est une révolution par la conception même des contenus. Initialement, les contenus étaient conçus par l'humain. Aujourd'hui, ils peuvent être conçus par d'autres modes que celui de l'humain. Et là, c'est extrêmement important, et c'est parce que on se retrouve, le fait que à chaque fois qu'il y avait un contenu qui était produit, il y avait un humain derrière. Et finalement, l'humain n'est plus seulement le maillon le seul maillon de la chaîne de conception, mais un des maillons principaux devient la data. Aujourd'hui, quand on pense contenu, en tout cas dans des startups qui travaillent sur les algorithmes, un des sujets majeurs pour pouvoir générer du contenu est de penser d'abord par la data. La data devient l'insight important, devient l'élément important qui va permettre ensuite de générer des contenus. Et finalement, initialement, quand vous êtes dans le digital, vous vous dites que la data, ça nourrit vos analytics, la data vous donne des insights, vous permet de retargeter vos campagnes, etc. Et en fait, la data n'est plus que ça, puisqu'elle devient un constituant de nos propres contenus et permet de générer justement ses propres contenus. Et donc du coup, là où vous aviez vu tout à l'heure l'analogie entre un contenu égal un humain, là finalement, vous avez un contenu égal data, plus humain, plus algorithme. Et c'est là où, en fait, on n'entre pas en opposition avec les humains. C'est typiquement, on intègre forcément la notion de réflexion humaine dans à la fois la conception des algorithmes, qui est un élément extrêmement majeur, puisque ça va créer forcément des biais, mais aussi d'extraction de la donnée. C'est que quand on va chercher des données, bah forcément, il y a déjà un biais sur le type de recherche de données pour ensuite générer des contenus. Donc l'humain est au cœur de ce dispositif-là. On n'est pas du tout en opposition. Même si effectivement les algos sont extrêmement puissants et permettent de générer ce que l'humain ne sait pas faire, on se met pas du tout en opposition. Et cette approche, en fait, finalement, elle est appliquée, alors nous, dans le cadre de Silabs, plutôt au texte, mais dans le cadre d'autres acteurs qui vont venir vous parler de leurs propres expertises, dans le cadre de l'image et potentiellement du son. Vous avez vu ce matin sur les podcasts, est-ce que les podcasts peuvent être aujourd'hui générés automatiquement? La question est non, parce que ce n'est pas audible, mais techniquement, oui, c'est faisable. Techniquement, c'est juste l'expérience qui fait qui est un petit peu déceptive, qui fait qu'on a le sentiment d'avoir son GPS qui nous parle et que c'est parfois un petit peu compliqué ou un petit peu difficile en termes d'expérience. Mais globalement, toute forme de contenu aujourd'hui peut être initiée par la donnée et ensuite transformée par des algos, je vulgarise, pour pouvoir arriver à des contenus qui sont des contenus textuels, des contenus images ou des contenus sonores. Et finalement, cette révolution, elle se place sur 5 plans majeurs. Vous en avez 4 là, le 5e arrive, notamment sur le sujet de l'exhaustivité. On a une expérience récente qui est qu'on travaille pour France Télévisions, Silabs travaille pour France Télévisions, pour couvrir l'ensemble des élections, des tours des élections, notamment présidentielles et législatives qui arrivent. On est en capacité de produire 36 000 contenus pour 36 000 communes. En simultané, en une fois. Vous avez, je ne sais pas où vous habitez, Paris 11e, vous avez les résultats en temps réel, le texte qui dit un tel est passé devant au premier tour, un tel a remporté l'élection au deuxième tour, de manière automatisée. Donc c'est un texte automatique qui reprend les données du ministère de l'Intérieur et qui ensuite est publié automatiquement sur les supports, sur les médias qui font appel à nous. Et donc 36 000 communes. Ça correspond à quelque chose comme 150 000 textes, parce qu'on a fait plusieurs textes par commune, 150 000 textes poussés en simultané pour France Télévisions. Imaginez qu'aujourd'hui, les journalistes de France Télévisions se disent « Oui, on voudrait couvrir l'ensemble de la France. » Impossible à réaliser. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on se loge dans les interstices, on offre une expérience supplémentaire, on offre de l'information supplémentaire, justement pour être certain que la couverture soit totale. Et permettre aussi, Grégory le disait, permettre aussi de libérer du temps à tous ceux qui produisent des contenus et qui ont besoin de mettre leur cerveau au service d'une autre valeur. Typiquement, un journaliste qui doit faire un compte-rendu sur la ville, ça l'ennuie honnêtement. Son sujet à lui, c'est de mettre son cerveau, de trouver une valeur supplémentaire, une valeur analytique supplémentaire pour pouvoir produire d'autres types de papiers que l'intelligence artificielle ne serait pas en capacité de produire. Donc là, on le soulage. Sur la rapidité, bah forcément, là pour le coup, tout dépend de la capacité technologique, mais là, c'est la puissance de calcul, c'est juste la limite. Sinon, on est en réactivité quasiment simultanée. Alors, nos ingés disent, quand je dis en temps réel, ils n'aiment pas le temps réel parce que Une nanoseconde, ce n'est pas le temps réel. Mais bon, pour moi, du market, c'est du temps réel. La fiabilité, puisque aujourd'hui, les algorithmes qui sont les moteurs ou les algorithmes qui sont créés par nos ingénieurs sont testés, bêta-testés et retestés, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on produit une annonce immobilière, par exemple, automatiquement, on produit forcément sans faute d'orthographe, de manière intelligible. Et quand vous demandez à un agent immobilier de rédiger une annonce, forcément, il peut se passer quelques couacs. Et on a plutôt coutume de dire que à chaque fois que... C'est quoi la différence entre une annonce rédigée par un algo et une annonce rédigée par un agent immobilier? Ben, c'est les fautes d'orthographe. Sauf que c'est du côté de l'agent immobilier. Donc, c'est blague de geek. Hein. Donc, ça, c'est véritablement quelque chose qui nous, sur lequel on est ultra vigilant quand on est publié par Le Monde sans relecture, quand on est publié par Ouest France ou par une douzaine de PQR, de presse quotidienne régionale à travers la France, et qu'on a 150 000 textes qui sont ventilés et qui sont mis à la lecture de tout le monde, on ne peut pas être relu. Donc on doit être fiable. Le quatrième plan majeur, c'est la variabilité. Il y a beaucoup de technologies qui dont on parle de texte à trous, par exemple, qui permettent de pouvoir rédiger des textes de manière assez facile avec des templates de texte où simplement quelques mots-clés changent. Ça, effectivement, ce sont des outils qui ne coûtent pas très cher, qui sont implémentables assez facilement et qui ont un problème quand même, c'est qu'ils ne sont pas Google compliant. À partir du moment où on demande une variabilité des contenus, en fait, vous ne changez que les trous, les mots qui sont dans les trous, et forcément, au crawl de Google, vous faites sandboxer. Et donc, le sujet des algorithmes et des moteurs qui sont créés, c'est justement d'aller à l'extrême variabilité, dans tout le champ des possibles que la langue vous offre, pour justement être en capacité de produire des contenus à partir d'un même jeu de données, de produire une invariabilité de contenu. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que tout simplement ça permet de scaler déjà d'un point de vue du business. C'est que vous pouvez vendre le même produit plusieurs fois à vos clients, donc ça, d'un point de vue du business model, c'est pas anodin, et en plus vous avez un niveau de variabilité, donc de synonymie et de potentiel sémantique qui permet à chaque client d'avoir son propre texte et de se dire que finalement c'est pas le texte qui est copié à d'autres clients. Donc ça, c'est assez important. Et pour le coup, dernière chose ultra importante, c'est que moi qui viens des contenus, qui ai fait une grande partie de ma carrière dans la production de contenus plutôt personnalisés, on était sur le one size fits all. C'est-à-dire que véritablement, on produisait un contenu, on se disait, bon, ok, dans un cadre de Content Factory, comment on va faire? On va produire un contenu autour d'un thème, et ce contenu-là, on va se dire, bon, il va convenir aux réseaux sociaux. On va se dire, et en plus, on va granulariser, se dire, il va convenir à Twitter, et ensuite, il va convenir à Facebook, etc. etc. Et cette approche one size fits all, en fait, elle est difficilement faisable dans la mesure où chaque support de destination a des contraintes. Et donc, il y a forcément des choses qu'il faut retravailler humainement, sur lesquelles il faut retailler. Et oui, Twitter, c'est 140, enfin un peu plus maintenant, de caractères. Mais derrière, il faut quand même repackager la chose. Et ce qui n'arrive pas, en fait, avec les algorithmes et la variabilité, et donc la personnalisation, puisque à chaque fois, on est en mesure, à partir d'un même jeu de données, de pouvoir adresser personnellement, en temps réel ou presque temps réel, des contenus qui conviennent aux personnes. Vous avez laissé une partie de vos données sur votre âge, votre géologue, votre métier, votre background. On va être en capacité de vous adresser un message qui soit ultra personnalisé en temps réel et qui puisse en plus tenir compte de votre contexte. On a fait quelques tests, notamment de liaison entre pour un client, de liaison entre la météo et votre activité physique. On est en capacité d'envoyer un email qui permet de dire, en fonction de si vous êtes âgé, on va avoir une tonalité qui va être beaucoup plus respectueuse avec un vouvoiement et un cher Patrick, ou une tonalité qui va être beaucoup plus de proximité, où on va dire, hey Alexis, qu'est-ce que tu fais? Arrête de manger ta pizza, parce qu'on sait que tu manges beaucoup de pizza, tu as commandé beaucoup ces derniers temps sur Uber Eats. Et derrière, on va pouvoir te dire, il est temps de courir, il fait beau, parce qu'on a la data, va courir au parc de la Tête d'Or, si tu es lyonnais, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est typiquement une possibilité que seuls les algos et la mise en concordance de la donnée permettent de faire. Et ça, c'est une véritable révolution et qui vient se loger aussi là où l'humain ne peut pas se loger. C'est-à-dire que qui, aujourd'hui, sera en capacité de rédiger un email qui soit aussi proche de vos aspirations et qui tienne de manière aussi importante compte de vos propres concerns à vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui fait partie de cette révolution. Et donc forcément, si on a customers, donc je parlais pour ceux qui achètent, si on est dans un cadre de funnel, forcément, si on a un emailing qui vous vend quelque chose, mais aussi dans un cadre de médias où on est en capacité de ventiler le contenu de manière automatique et que ça soit adressable entre tous. Donc deux révolutions, mais aussi une convergence, ou un vœu pieux en tout cas, qui est d'en finir à ce qu'on disait en introduction, avec le combat entre intelligence artificielle et intelligence humaine, tout simplement parce que Aurélie Jean le dit très bien, finalement, ceux qui conçoivent, ceux qui utilisent sont les humains. Et donc, forcément, on a une part de responsabilité dans la manière dont les algos sont construits. Donc, évidemment, je fais des raccourcis qui sont pour le coup très très courts, mais pour le coup, on a quand même une responsabilité à la fois dans la conception, dans l'usage, ce qu'on en fait de tout ça, de cette information-là. Tous les ans sur Facebook, le reach baisse, les contenus, le nombre de contenus augmente, mais on ne sait pas pourquoi il augmente. Notre sujet à nous, quand on travaille sur la production de contenu, c'est que si on part de la donnée, on part de quelque chose qui est factuel, qui est existant. Donc ça veut dire que derrière, on travaille sur des contenus dont on sait qu'ils vont répondre à un besoin. Et donc, mon vœu pieux, c'est celui-ci, hein. C'est la réconciliation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, et que cette réconciliation, en fait, elle se fasse aussi par le biais d'évangélisation, mais aussi par l'usage. C'est utiliser, tester, poker. On est une communauté plutôt ouverte, pour le coup, et moi, j'en viens pas, donc je m'y suis intégré de manière assez naturelle. Et ça permet aussi de travailler sur l'ensemble de ces usages et l'ensemble des besoins que les marques, que les médias ou que les annonceurs peuvent avoir.